Bon, Ray est avec nous ce matin. D'abord, on le salue.
Salut, Ray.
Bonjour, Paul. Bonjour, Alain.
Et là, je veux t'entendre sur cet événement annuel qui est la date limite des transactions. De façon générale, là, quand tu regardes avec le recul, est-ce que vraiment il y a des grosses transactions qui se font et qui ont un impact sur la fin de la saison? Et plus particulièrement chez le Canadien après, disons.
Ouais, c'est de plus en plus difficile, Paul et Alain, parce que pour effectuer une transaction, il faut que tu sois deux pour danser. Puis ça veut dire que avec les incertitudes liées au plafond salarial au cours des prochaines années, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont vraiment, si tu me permets l'expression, à côté. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de budget. Les Canadiens font partie de ceux-là. Ça prend des joueurs sur la liste des blessés pour pouvoir se faire un peu d'espace. Il faut que tu mettes des joueurs sur les waivers, si tu me permets l'expression. C'est compliqué. Puis souvent, on demande à l'autre équipe, lorsqu'on tente de faire une transaction, d'absorber une portion du salaire du joueur qu'on amène pour te faire justement de la place pour réaliser la transaction. Sinon, ça devient impossible. Je prends l'exemple de Taylor Hall. Boston le prend avec plaisir. Ça peut être une surprise. C'est un joueur qui déçoit beaucoup. Mais la masse salariale de Boston ne peut pas l'accueillir. Donc, Buffalo va absorber la moitié pour réaliser la transaction pour s'en débarrasser. Ultimement, à long terme, ils n'auront pas besoin de payer ça. Mais pour cette année, ils vont prendre la moitié du salaire. Donc, c'est compliqué de faire des transactions dans le paysage actuel du hockey à cause de la COVID, à cause des revenus à la baisse, à cause du fait que les équipes sont très, très serrées financièrement.
Et dans le cas du Canadien, quand tu regardes le parcours, là, il y a des clubs qui jouent gros, là, peut-être dans ces moments-là, mais le Canadien, historiquement, a été toujours assez tranquille, là, non?
Bien, d'abord, je vais quand même prendre le temps de dire que au cours des dernières années, Marc Bergevin a réalisé de très bonnes transactions. Ça a été une de ses forces. Puis il a amélioré l'équipe depuis 6 mois, depuis la bulle là, à Toronto. L'équipe a été transformée. Il y a beaucoup de joueurs, des nouveaux morceaux qu'on a raison d'avoir confiance en eux. Mais je t'avoue, hier, Paul, j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu qu'on n'a pas été capable de tirer sur la gâchette pour faire ce qui était nécessaire pour gagner maintenant. Bon, là, ils vont me dire, ils ont battu Toronto hier, ils sont corrects pour gagner maintenant. OK, chacun son opinion là-dessus. Mais Toronto, qui veut gagner la Coupe impérativement cette année, a acquis 6 joueurs dans les 72 dernières heures. Ils n'ont pas laissé partir autre qu'un seul joueur de l'actif actuel pour se positionner. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, puis je le répète toujours, ça c'est mon point de vue, tu dois gagner maintenant. C'est correct, là, on peut respecter les points de vue de tout le monde, puis c'est Marc Bergevin qui est le boss. Fait que lui, il peut dire, non, je ne vais pas sacrifier l'avenir du club juste pour préserver mon emploi, pour préserver l'immédiat. OK, mais entre-temps, là, Carey Price et Shea Weber vieillissent. Weber a ralenti. Son impact offensif est très réduit. Price, là, ça y prend beaucoup plus de temps qu'auparavant de revenir d'une blessure au bas du corps. T'as des joueurs comme Perry qui a 36 ans, Stahl va en avoir 37 bientôt, Petrie a 36, Byron 32, Chariot a 30, Allen a 30. C'est pas une équipe jeune, les Canadiens. Est-ce qu'ils ont un actif de choix repêchage? Absolument.
Moi, mais j'aurais pas dans les mœurs de l'équipe. Tu regardes, là, oui. Toronto, Tampa, les Islanders, les Capitals de Washington, des clubs là, qui, dans leur esprit, là, veulent avoir un long parcours en série. Ils ont donné des choix de première ronde aux autres. Là.
Regarde ce que Washington a fait hier. Ils ont donné beaucoup trop pour Anthony Manta. Le joueur Vrana, là, il est quasiment aussi bon que Manta. Ouais. Mais qu'est-ce que les Capitals ont fait? Ils se sont dit, ben, la carrière d'Ovechkin tire à sa fin. Et Backstrom. Et à un moment donné, là, c'est tout de suite ou pas du tout. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leurs yeux dans le même panier. Ils ont surpayé pour avoir Anthony Manta, un joueur lourd qui prend de la place sur l'attaque, qui va aider dans un casse-tête pour revenir. Parce que c'est tough dans cette division-là, Alain. Islanders, oui. Boston, Penguins et Capitals. Alors, les 4 hier ont bougé. Bon, nous autres, on assume qu'on est prêt à entamer les séries et aller loin. Puis on regarde ce que Toronto a fait en allant chercher Nick Foligno. Hey, Nick Foligno, là, c'est le genre de joueur que tu as besoin pour les séries. Il est fait sur mesure pour les séries. Alors là-dessus, je suis obligé de dire que quand les joueurs vieillissent chez les Canadiens, ben, notre fenêtre de Price et Weber, elle se ferme graduellement de semaine en semaine. Et oui, on s'est amélioré beaucoup, mais je trouve qu'on avait encore une occasion d'essayer de tenir tête aux Leafs puis de pousser vers le haut du classement si on veut sortir de la division canadienne.
Et t'as vu les directeurs généraux imaginatifs comme Julien Brisebois, là, qui avait pas une scène à dépenser parce qu'il était à côté dans le plafond, lui, avec sa masse salariale. Il a réussi à faire une transaction à trois clubs où chacun des deux autres clubs a absorbé une partie du salaire du joueur.
Et voilà. Puis c'est pas une critique envers le fait que l'équipe est vraiment améliorée, là. Tu sais, tu regardes Ali Toffoli puis Anderson. C'est une équipe qui est capable d'être compétitive. Mais vous allez être obligé d'être d'accord avec moi qu'il manque quelque chose. Tu sais, on en perd deux, trois, on en gagne une, on en gagne deux, on en perd deux, trois, on en gagne une, on en gagne deux. Tu sais, mais c'est pas
là,
très constant.
Une fois que tu as fait les changements, là, que tu viens de décrire avant la saison commence, tu changes d'entraîneur, là. Qu'est-ce que tu veux faire de plus, là?
Paul, t'as changé d'entraîneur, t'as changé le coach de gardien. Oui. Non, mais là, sérieux, ils ont fait des changements, là.
On change
c'est
la
pas
mascotte,
qu'il a pas bougé. Non, mais c'est vrai. Fait qu'il restait quoi à changer? Ben, apparemment qu'on n'est pas tout à fait là parce qu'on tire de la patte. Si Vancouver, Ottawa et Calgary n'étaient pas si médiocres, ben, c'est pas certain qu'on serait dans les séries non plus. Fait que là, c'est parce qu'on est chanceux, on joue d'une division qui est plus faible. Fait que là, mais on va se taper les Maple Leafs de Toronto en première ronde, là, avec Austin Matthews, puis maintenant Nick Foligno dans cette équipe-là. Fait que, oui, on est capable de les battre ici et là, mais est-ce qu'on va être capable de les battre sur une série de 7 matchs?
Il va falloir prier, monsieur, il va falloir prier, monsieur.
Exactement. C'est toujours bon, la prière, en tout temps. Merci, Harry.
Salut, on se retrouve bientôt. Bonne journée.
8h33, c'est... J'aime toujours ça, ce moment où on nous rappelle les valeurs fondamentales, que les pénitents se placent à genoux et invoquent le Seigneur pour qu'on puisse comme ça traverser les séries éliminatoires.
Mais souvenez-vous, à l'époque, quand on grimpait les marches de l'oratoire.
Bien sûr.